Il sera question d'un problème bien difficile, mais je vous promets une émission qui pourra, pour certains d'entre vous, éclairer certaines données sur le problème de la souffrance, ce mystère étouffant de la souffrance qui nous accable tous, on y passe tous. Et j'ai trouvé des textes absolument admirables sur cette question que j'essaierai de mélanger et de vous servir pour vous faire mieux saisir ces choses. Je pense à ce texte que Marie-Madeleine Davy m'avait envoyé. C'est un tiré à part de la nouvelle revue de psychanalyse auquel elle avait collaboré, elle qui est décédée maintenant, à l'automne 1980. Et elle disait, l'existence n'est pas comparable à une vallée de larmes, mais un magnifique jardin. Le passant retire son attention des mauvaises herbes. Il la donne aux fleurs et à leur parfum. On pourrait dire encore que la vie est semblable à une ascension, celle du Sinaï et du Tabor. Vous connaissez ces deux montagnes en Israël, Sinaï où Moïse a rencontré Dieu, et le Tabor où trois des apôtres ont vu Jésus dans sa gloire. Celle donc du Sinaï et du Tabor célébrant la rencontre et la transfiguration. Cette ascension s'accomplit dans un esprit de fête qui permet de célébrer la splendeur de l'univers. Telle une ombre absorbée par la lumière, la souffrance s'éclipse et disparaît. Elle savait de quoi elle parlait car c'était une grande souffrante que Marie-Madeleine Davy. C'est donc dans le cahier des fêtes et saisons de janvier 1990 qui a été confié à Dominique Morin que l'on retrouve des pages absolument sublimes. Connaissez fêtes et saisons, j'espère. Excellente revue chrétienne. Et on y raconte une dame qui venait de perdre son mari. Puis sa première réaction en voyant quelqu'un a été de lui dire, je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu. Et combien de fois j'ai entendu ça, moi, dans ma vie? Vous l'avez entendu aussi? C'est une parole terrible qui vient spontanément aux lèvres de nombreuses personnes lorsque le malheur les frappe. Mais comme il est difficile de faire comprendre que ce vieux réflexe n'a absolument rien de chrétien. On entend d'autres réponses comme ça dans les moments de souffrance ou d'autres enseignements. Hein? Car Dieu ne veut pas le malheur des hommes. On entend souvent, que j'ai entendu ça souvent depuis mon enfance, quand tu souffres, offre ta souffrance à Dieu en te disant qu'il éprouve tout particulièrement ceux qu'il aime et que ta souffrance est un signe privilégié de son amour pour toi. Alors continue à souffrir. Lorsque Dieu éprouve ceux qu'il aime, ce n'est pas une épreuve, mais une grâce. Hein? On entend ça. Ça fait longtemps qu'on entend ça. C'est que des chrétiens ont pensé que Dieu pouvait infliger des souffrances comme ça là, à ceux qu'il aime, pour leur témoigner son amour. Étrange façon. Hein? Et même qu'il pouvait provoquer les souffrances pour le bien de ses fidèles. Comme si Dieu, qui est amour, pouvait faire souffrir délibérément ceux qu'il aime. Voyons. Comme s'il pouvait se réjouir de les voir souffrir. Est-ce que Dieu se réjouit de nous voir souffrir? On trouverait, malheureusement, dans des ouvrages de théologie, oui, j'en ai ici, dans ma bibliothèque, ou de spiritualité, ça, j'en ai beaucoup, puis même, je vous ai raconté des vies de saints où il en était question, et c'est un peu troublant, j'essayais de mettre la pédale douce. On trouve dans ces ouvrages de théologie puis de spiritualité bien des exemples de ce genre de propos absolument, à mon avis, scandaleux, où on affirme que le mal est voulu par Dieu pour le bien de l'homme. Mais les chrétiens qui raisonnent comme ça, ils avaient, il faut bien l'avouer, des excuses. Moi, je les blâme pas, là. Ces chrétiens-là étaient mes fils, les filles de leur époque. Ou alors que de tels propos leur ont permis de vivre et puis de survivre, et de plus, ils étaient influencés par bien des écrits dits spirituels, par d'innombrables livres de piété où l'on trouvait des affirmations de ce genre. Comme je vous ai dit, il y a des saints qui ont aussi baigné dans de telles idées. Et pendant des générations, en effet, on a présenté à beaucoup de chrétiens, en toute bonne foi, c'était sincère, un visage de Dieu très, très différent de celui dont Jésus nous révèle l'immense compassion pour l'homme souffrant. On le voit bien dans l'Évangile. Toute époque véhicule de fausses idées. Puis la nôtre aussi, on en véhicule encore. J'espère que je n'en véhicule pas trop. Mais ces idées n'apparaissent pas toujours fausses sur le moment. Il faut l'épreuve du temps pour le connaître et le reconnaître. Et voilà aussi pourquoi il nous faut sans cesse revenir, il me semble, à la méditation de la Bible, des Écritures, lue, relue dans l'Église. En tout cas, on ne peut accepter aujourd'hui les explications qui voient en Dieu celui qui fait souffrir quand même. Même si c'est pour éprouver comme si Dieu pouvait causer le mal, il y aurait beaucoup à dire sur ce Dieu pervers. Maurice Bellet a écrit un très beau livre là-dessus, l'abbé Bellet, sur le Dieu pervers. Et on comprend que certains psychanalystes aient pu voir dans cette représentation de Dieu une espèce de projection d'un masochisme enraciné dans ce qu'on appelle un dolorisme de très mauvais aloi, à mon avis. Un tel Dieu ne pouvait que conforter, si on peut dire, le refus de Dieu de nombreux d'athées. Combien d'athées refusent Dieu à cause de ça? S'il est méchant, il n'existe pas. Ça les laisse circonspects et hésitants, évidemment. Puis les agnostiques les plus modérés sont très hésitants devant ce Dieu. Quand je vois la manière dont Dieu traite ses amis, je comprends qu'il en est si peu, hein, c'est cette parole qu'on attribue à sainte Thérèse d'Avila. Cette réflexion est plutôt assez appropriée s'il s'agit de ce Dieu sadique, qui en aucun cas ne serait-être celui, me semble, des chrétiens, parce que accepter une telle explication, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est même blasphématoire, à mon avis. C'est ce que précise d'ailleurs quelqu'un que nous avions interviewé à rencontre à la télévision, Maurice Nédoncel, ce grand philosophe chrétien. Comment, ajoute-t-il, imaginer un Dieu indifférent, qui laisse le monde s'abîmer, souffrir, ou pire encore, un spectateur, là, assis sur son trône, spectateur suprême, qui nous soumet à une épreuve pour contempler nos résistances, pour voir si on va bien résister, puis il regarde nos chutes aussi, et il serait là pour savourer cette espèce d'expérimentation, là, comme un type dans son laboratoire, une gloire d'un goût étrange, il expérimente sa gloire. Mais voyons, un dieu calculateur qui invente la séduction, puis la torture pour faire l'éducation des hommes, peut-on admettre que le vrai dieu est une technique aussi horrible, dit Maurice Nédoncel? Il a bien raison, parce que Dieu veut le bonheur des hommes. Le Dieu en qui nous croyons, d'après le témoignage de la Bible, est un Dieu libérateur, qui fait alliance avec nous, qui nous donne son salut, qui s'est fait notre frère en Jésus. Un Dieu qui veut le bonheur des hommes. Me semble que c'est évident. Il veut notre bonheur, mais si on ne peut pas expliquer le mal et la souffrance, quoi faire alors? Se résigner? Tendre le dos? Attendant que passe l'orage? Ou bien se révolter? Oui, je propose ça, la révolte. C'est dans l'Évangile aujourd'hui. Il est dit dans l'Évangile aujourd'hui. Ils arrivent à Jérusalem et alors Jésus entra dans le temple et se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes dans le temple. Et il ne laissait personne traverser le temple en portant quoi que ce soit. Il enseignait et il déclarait aux gens l'Écriture, ne dit-elle pas, ma maison s'appellera maison de prière pour toutes les nations. Oui. Il y a le stoïcisme aussi. Vous connaissez ça chez les Grecs. Supporte ce qui ne dépend pas de toi. Puis c'est les stoïciens qui disaient ça, Épictète en particulier. Pour eux, la sagesse consiste à cultiver ce qui dépend de nous, puis à supporter le reste courageusement. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont plutôt stoïciens. Comme dit Épictète, ne demande pas que ce qui arrive, arrive comme tu veux, mais veille que les choses arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. En somme, on ne dit rien. on ne change rien, on ne se révolte pas. Et le stoïcisme invite donc l'homme à maîtriser ses désirs et ses passions, puis à apprendre à demeurer insensible face au mal et à la souffrance, afin de trouver la vraie sérénité. Et cette attitude est résumée dans une autre devise des stoïciens, c'est « supporte ce qui ne dépend pas de toi, puis abstiens-toi de toute passion ». C'est un programme de vie qui peut mener tantôt à une résignation un peu triste, à un volontarisme parfois même orgueilleux. C'est une attitude passive de démission qui est résignée et teintée d'orgueil. C'est fort respectable dans un sens, mais quand on écoute, comme aux nouvelles ce matin, le trafic de ce fruit merveilleux qu'est la banane, vous avez entendu ça? C'est terrible! Vous écouterez ça aux nouvelles de Radio Ville-Marie. On nous donne souvent des nouvelles bouleversantes de l'abus que l'on fait du travail des gens qui cueillent les bananes, qui sont réduits plus bas que les esclaves. Terrible! Est-ce qu'on doit simplement ne pas en parler à Radio Ville-Marie et ne rien dire? La philosophie stoïcienne a eu une influence profonde, oui, sur l'histoire de la pensée occidentale, puis même sur le christianisme, comme je vous disais. Il y a eu souvent tendance, le christianisme, à reprendre ces théories-là à son compte, et les chrétiens ont oublié parfois un peu vite qu'elle est incompatible avec l'Évangile. En effet, face au mal et à la souffrance, Jésus n'a jamais prêché la soumission, vous venez de le voir dans l'Évangile d'aujourd'hui, il ne se gêne pas, Il n'a jamais prêché la soumission ou la résignation, mais au contraire, une révolte active, ça peut vous surprendre, Cette révolte, on la retrouve aussi chez Albert Camus, dont je vous ai parlé le 5 janvier, cet Albert Camus athée, qui disait, qui a écrit « L'homme révolté », la révolte contre le mal et la souffrance a été particulièrement bien exprimée par Albert Camus. La présence constante et universelle du mal l'a conduit, lui, à nier l'existence de Dieu. Bon, beaucoup de gens versent là-dedans de plus en plus actuellement, Et cette réalité qui est vraiment dramatique, c'est pour Albert Camus le signe de l'absurdité du monde. On entend ça chez nos enfants. Le monde est absurde. Mais ne doit pas entraîner l'homme à démissionner et encore moins à se suicider, selon Albert Camus. L'existence du mal et de la souffrance doit, au contraire, pour cet athée, stimuler les efforts de l'homme révolté pour tenter inlassablement de supprimer cette peste. Ou du moins diminuer les injustices et les souffrances autour de lui. Un cinéaste à l'Office national du film, Michel Régnier, a fait beaucoup de films comme homme révolté devant la souffrance. Je l'admire beaucoup. Je tiens à saluer cet incroyant Michel Régnier. Je ne sais pas, peut-être a-t-il trouvé la foi depuis. Or, il faut bien le dire, et même si les hommes réussissaient un jour, c'est leur erreur à eux. Parce que même si les hommes réussissaient un jour à anéantir tous les maux qui dépendent d'eux, s'ils se révoltaient contre tout puis changeaient tout, il resterait encore les souffrances liées à leur condition mortelle, ils meurent, puis la condition limitée de l'être humain. Ainsi, malgré les progrès prodigieux, disons, de la médecine, l'homme ne sera jamais totalement invulnérable, physiquement puis psychologiquement. L'homme sera toujours, inévitablement, confronté à la maladie et à la mort, et ce combat contre le mal et la souffrance qui exige une générosité folle, et un amour étrange, comme dit Albert Camus, et par certains côtés perdu d'avance, il faut pourtant jamais y renoncer, jamais y renoncer. Et nous devons travailler en collaboration avec les athées dans cette lutte. Car ça nous permet de diminuer quand même le mal et la souffrance en nous et autour de nous. Et ce combat doit être sans cesse le nôtre. Il y va de notre dignité d'homme, de notre avenir, de notre bonheur individuel, tout comme de la dignité, de l'avenir et du bonheur de l'humanité. Mais on peut se demander, est-ce que Dieu est révolté? Dieu, lui. Le Dieu de la Bible est un Dieu de miséricorde, c'est sûr. Il a une tendresse particulière pour ceux qui souffrent, surtout pour les pauvres et les innombrables victimes de l'injustice, comme les veuves et les orphelins, et dans le témoignage des prophètes, eh bien, vous allez peut-être être surpris, on perçoit que Dieu est révolté contre tous ceux qui veulent écraser son peuple. Dans la Bible, c'est merveilleux de lire ça, parce que Dieu est tendrement révolté contre tous ceux qui veulent écraser son peuple. Contre le peuple lui-même, combien de fois Dieu se fâche contre son peuple élu, contre Israël, parce que le droit et la justice ne sont pas respectés, parce que le mal et la souffrance s'installent chez les plus pauvres, et quand ça s'installe chez les plus pauvres, il est révolté. Et dans le christianisme, nous avons vu l'Église surgir à travers les siècles, révoltée souvent, très souvent, toujours, contre la pauvreté. Vous allez dire que je ramène toujours Mère Teresa que j'ai rencontrée brièvement un jour, il y a 20 ans. Et ceux qui sont allés la voir à Bombay, comme Jean Vanier, comme M. Ouimet, ici à Montréal, et d'autres. C'est un visage extraordinaire que vous voyez, un visage de compassion. C'est la révolte douce, mais la révolte vigoureuse. On sentait Mère Teresa fatiguée, cassée, écrasée. Mais malgré tout, il y avait comme une espèce d'air de jeunesse chez elle. Cette jeunesse que donne cet amour chrétien. Elle a créé des maisons, hein, qu'on sait, de mourants en Inde, hein, vous connaissez tout ça. Elle fonde avec des sœurs indiennes une maison à Harlem, à New York. C'est extraordinaire, cette histoire-là. C'est toujours là. Puis une autre à Londres, puis une autre à Belfast, etc., etc., etc. Elles sont ici, à Montréal. Et ces sœurs, même dans des moments de guerre civile, ont passé des moments angoissants. Et elles aussi. Et partout où il y a des points chauds dans le monde, on trouve des petites sœurs comme ça, de charité, de la charité, qui se donnent entièrement, qui travaillent, qui sourient. Elles sont toutes paisibles, mais révoltées. Elles sont toutes prêtes à secourir le rejeté, mais elles sont révoltées. Elles vivent pauvrement, mais elles sont révoltées. Aussi pauvrement que ceux qui sont autour d'elles. Elles sont admirables. Et les évangiles sont remplis de paroles, parfois très vives, de Jésus, qui exprime sa révolte contre certaines pratiques, certains agissements de ses contemporains. Oui, l'injustice, le mensonge, l'hypocrisie, puis la bonne conscience le révoltaient, notre Seigneur Jésus. Ça le révoltait. Tout comme l'indifférence devant le malheur des autres, Jésus ne dénonçait pas seulement l'injustice, il luttait activement contre le mal et la souffrance. Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, vous le savez, il guérissait, il soulageait toutes sortes de misères autour de lui. Il se disait pas, vous souffrez, offrez vos souffrances au bon Dieu, à mon Père. Pas du tout. Nous retrouvons en Jésus cette compassion de Dieu pour l'homme souffrant. Et lui aussi a une préférence pour les pauvres, un secours d'innombrables détresses. Les pécheurs trouvent en lui un ami. Ce qu'il réjouit le plus, ce n'est pas la bonne conscience du juste, mais ce qu'il réjouit, c'est la brebis égarée, le fils perdu et retrouvé. Ah, ça, c'est sa joie, arracher quelqu'un à la souffrance. Dès qu'il l'aperçoit, il est touché de compassion. Dans la parabole, hein, il court à sa rencontre. Jésus demande à ses disciples d'être miséricordieux, comme leur Père est miséricordieux, et donc de pardonner. Vous l'avez vu avec Sainte Rita, c'est presque à l'excès, c'est incroyable. Je vous ai parlé d'elle. Il leur demande de secourir ceux qui souffrent et de ne pas abandonner sur le bord de la route les malheureux en difficulté. Toujours espérer. C'est là une condition essentielle pour entrer dans le royaume des cieux. Or, si Dieu est révolté, est-ce qu'il y a aussi une révolte chrétienne pour nous? Une révolte à l'image de celle de Dieu? Comme je vous l'ai insinué en parlant de Mère Teresa, ben le chrétien est invité à faire comme Jésus, puis à lutter de toutes ses forces contre les maux là, de toutes sortes qui accablent l'humanité. Puis il est tout à fait normal que les chrétiens et les chrétiennes, comme Jésus, soient amenés à se révolter contre le mal, et notamment celui qui vient du cœur de l'homme. Cette révolte-là est positive. C'est une révolte positive que nous devons avoir. Parce que cette révolte doit être enracinée comment? Dans l'amour de Dieu. C'est là la clé. Notre révolte est enracinée dans l'amour de Dieu. Elle accompagne l'homme dans sa souffrance partout où il est. N'hésite pas à partager la condition de ceux qui souffrent comme Jésus l'a fait. Mais ce combat est une exigence de leur foi aux chrétiens, et même un signe de bonne santé spirituelle. Ça n'a rien à voir avec cette révolte stérile là, des gens toujours enragés. Se traduit par un désengagement, les gens finissent par dire « Ah, il n'y a rien à faire ». Ou encore par un ressentiment contre Dieu et les autres en disant « Bah, Dieu ne s'occupe pas de nous, puis de toute façon, ça sert à rien de s'occuper des autres, ils retombent toujours, puis moi, j'en ai marre ». Alors les gens vont s'étendre au Club Med, sur des plages. Ils rêvent de finir leur vie dans leur petit égoïsme. Non, pour les chrétiens, c'est très, très différent. Aujourd'hui, devant toutes les détresses de l'humanité, eh bien, il y a des hommes, croyants ou non, je le répète, ou non, ont organisé un véritable front de lutte contre la souffrance sous toutes ses formes. Chaque jour, aux quatre coins du monde, regardez, il y a des organismes parfois peu connus, mais efficaces, qui travaillent d'arrache-pied pour soulager la souffrance des innombrables victimes de la faim, du malheur, de l'injustice et de la violence. Et ceux qui luttent contre justement ces compagnies dont il a été question aux nouvelles tout à l'heure à Radio Ville-Marie. Les compagnies où on cueille les bananes et on les vend à des prix si bas que ceux qui les cueillent meurent de faim. Dans ces organismes, les chrétiens travaillent au coude à coude avec des hommes et des femmes de tout horizon. D'autres militent au sein d'organismes chrétiens, comme en France le Secours catholique. Ici, la Société Saint-Vincent de Paul. Emmaüs, qui existait ici, qui existe encore là-bas. L'ACAT, vous connaissez ça, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Ou Ombres et Lumières, vous connaissez ça, hein? Ces gens qui travaillent pour aider les parents d'enfants gravement handicapés. Il y a Caritas, etc. Puis il y a Médecins sans frontières, dont on parle beaucoup actuellement au Kosovo. Fondé par des catholiques, ça. Mais il n'y a pas que des catholiques dedans maintenant. Cette entreprise de solidarité qui existe comme ça dans le monde, ouverte à tous les hommes de bonne volonté, est indispensable pour contenir si peu que ce soit l'espèce de flot immense de souffrance qui submerge tant d'enfants, de jeunes et d'adultes. À notre porte, hein, souvent. Ou à l'autre bout de la planète. Moi, j'ai eu la chance, ça, c'était à ma porte. C'est entré dans mon appartement. Merci, Seigneur. En Jésus-Christ, Dieu s'est mis du côté de toutes les victimes, de tous les torturés, de tous les humiliés, de toutes les innocentes victimes du mal. Il est avec celui qui pleure. Oui, Jésus-Christ. Dieu est avec ceux qui peinent, ceux qui meurent. Et malgré le mal, malgré la souffrance, notre espérance à nous reste vivante. Comment ça? Car Dieu est à nos côtés. Oui, il est là. Car Dieu souffre avec nous. Et il nous aime. Or, si Dieu aime les hommes d'un amour infini, pourquoi alors ne fait-il rien? Du moins apparemment, pour supprimer ou atténuer le mal et la souffrance, serait-il impuissant devant les forces du mal? L'image que Jésus nous donne de Dieu est bien celle du Dieu Tout-Puissant, hein? Mais le problème, c'est que cette toute-puissance n'a rien à voir avec ce que nous imaginons spontanément. Le Dieu des chrétiens n'est ni un magicien, ni un surhomme qui règle seul et à sa convenance tous les problèmes des hommes pour leur plus grand bien. Non, 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 ce n'est pas un tyran, mais un Dieu d'amour. Un Dieu qui respecte infiniment les hommes et leur liberté. Un Dieu dont la toute-puissance est celle de l'amour. Et cet infini respect de Dieu pour l'homme, ça explique son impuissance apparente là, devant le mal et la souffrance, lorsque ce mal et cette souffrance sont dus précisément à sa liberté. L'homme est en effet souvent responsable du mal qui submerge le monde. Hein? Inconscience, imprudence, méchanceté, faiblesse, désir de nuire, venger, bêtise, égoïsme. Regardez Milosevic. Il y a bien des raisons qui peuvent expliquer les accidents de la route aussi. On lutte contre ça actuellement. Les guerres meurtrières, il y en a dans le monde, là. La faim, la misère de centaines de millions d'hommes dans le monde, puis le chômage ici, puis la détresse et la solitude ici, partout dans nos maisons, de tant de gens autour de nous. Mais, cela dit, le fait que l'homme soit responsable directement ou indirectement d'une bonne partie du mal que nous constatons dans le monde n'explique pas cette force obscure qui en lui l'amène à vouloir et à faire le mal. Délibérément, il y en a qui, on dirait qu'il faut qu'il fasse le mal, de manière parfois forcenée, comme en témoignent des scènes de barbarie que nous montre l'actualité télévisée sur le Kosovo, le Soudan, bien d'autres régions du monde. Et il est question aujourd'hui de la souffrance. L'homme face à la souffrance. C'est un drame, il y a le problème du péché originel aussi. On nous enseigne ça, le péché originel. Comment peut-on cerner ce problème? Nous ne sommes pas personnellement ou directement responsables de tout le mal qui existe dans le monde, bon. Encore moins de celui qui existait avant notre naissance. Pourtant, nous sentons que nous sommes, d'une certaine manière, tous ensemble, solidaires du mal présent et passé. Solidaires d'une certaine façon. Peut-être parce que nous sentons en nous une force obscure. Oui, une espèce de une sorte de pesanteur. Toujours prête à nous porter au mal. Souvent, la colère surgit en nous, puis on imagine qu'on dirait des paroles de colère et qu'on dirait des choses terribles si on se laissait aller. On se retient. On demande pardon à Dieu de ce mouvement. Puis surtout qu'on lui demande de nous guider, de nous enseigner le pardon, la paix, le calme, etc. Pour expliquer l'enracinement en l'homme et en la femme de cette capacité, de cette volonté de faire le mal, les théologiens parlent du péché originel. Et cette expression est apparue au IVe siècle avec saint Augustin, dont il sera question dans les reprises dans quelques jours, là, le soir, la semaine prochaine. Saint Augustin, un Algérien, un berbère, très grand saint. Traditionnellement, dans les poèmes bibliques de la création, cette expression désigne le péché dont se serait rendu coupable aux origines de l'humanité, là, ces deux personnages appelés Adam et Ève. Et le livre de la Genèse, avec ces personnages, qui viennent en fait de récits symboliques très riches, là. Je vous ai déjà parlé de tout ça. Mais le livre de la Genèse souligne que le mal, le péché, est en l'homme. En tout homme, commençant en tout homme, parce qu'en hébreu, le mot Adam signifie homme, et nous sommes Adam. Il vient de nous. Le livre de la Genèse nous dit que la capacité puis le pouvoir de faire le mal sont dans tous les hommes, depuis les origines, depuis le premier, depuis la première femme. Mais le livre ne nous dit absolument pas pourquoi, et si l'on arrive assez bien à comprendre l'impuissance de Dieu face à tous les maux dont l'homme, Adam, est responsable, par respect pour sa liberté, en revanche, on ne comprend plus du tout cette impuissance lorsqu'il s'agit du mal existentiel, là, ce mal existentiel, c'est quoi? C'est celui qui est lié à la condition naturelle de l'homme. Bon, je vous m'explique. En particulier la mort. Quelle souffrance terrible, ça. Puis le malheur innocent quand des parents mettent au monde un enfant qui est presque réduit à l'état végétatif. Tous ces enfants handicapés aussi à la naissance, c'est très troublant pour les parents, souvent. Ils ont besoin d'aide. Il y a heureusement des associations comme Emmanuel Lamour qui sauve, qui se chargent d'adopter ces enfants handicapés dont les parents sont incapables d'affronter tous les problèmes. Certes, l'homme créé par Dieu est un être bien fragile. C'est un être en devenir. Et toute évolution, ça comporte des risques, et nous le savons par expérience. Mais pourquoi faut-il en outre souffrir pour naître? On se pose ces questions-là. Et pourquoi certains sont-ils si injustement défavorisés dès leur naissance? Comme mon fils Guy, qui est mort. Pourquoi Dieu, qui veut le bonheur de l'homme, a-t-il créé un monde où la nature semble si souvent le menacer dans son existence? Pourquoi le progrès des êtres vivants dans ce monde implique-t-il la souffrance et la mort? Pourquoi? Autant de questions très, très, très importantes, qui demeurent sans réponse vraiment satisfaisante, et qui nous renvoient au mystère du mal. Et à ce stade de la réflexion, même plusieurs constatations s'imposent. Tout d'abord, nous ne comprenons toujours pas, très bien, pourquoi l'homme est capable de vouloir et faire le mal. Le recours au péché originel met bien en lumière le fait que ce pouvoir de faire le mal se trouve en chacun de nous. Mais il n'explique pas vraiment pourquoi il s'y trouve. Par ailleurs, nous ne comprenons toujours pas non plus très bien la présence du mal dont je vous parlais tout à l'heure, ce mal existentiel, la mort, les infirmités, etc., dans le monde et dans notre vie. Mais alors là, s'il n'y a pas d'explication vraiment satisfaisante au problème du mal, écoutez bien, Dieu en Jésus-Christ nous propose, lui, une réponse. La voilà, la réponse, une réponse qui n'est pas une explication rationnelle. Oh non, non, c'est pas la raison qui marche là-dedans, là. C'est pas facile à accepter, car Dieu ne répond pas à nos questions avec des mots. Il répond avec la croix de son Fils. Oh là là là. J'en vois qui sont pas contents. C'est là qu'est la réponse. Je m'explique. Parce que Jésus, face au mal et à la souffrance, il a cette réponse. Jésus, sur terre, s'est trouvé affronté au mal. Comme chacun de nous, il a connu la souffrance, l'amertume de l'échec, l'impuissance. L'impuissance est triste à convaincre puis à atteindre les cœurs. Ça, ça fait mal. C'est la plus grande souffrance qu'il avait sur la croix, je crois. Ainsi, lorsqu'après avoir parlé du pain de vie, vous savez, au l'Évangile Saint-Jean, chapitre 6, relisez ça, c'est beau. Il parle du pain de vie, il est le pain de vie, et de nombreux disciples le quittent. On ne veut pas croire à la présence réelle, hein. Comme tant d'églises chrétiennes ont rejeté ça, et il y a des catholiques qui ont tendance à ça. Attention! Jésus a également connu la cruauté des séparations. Hein. La mort de son ami Lazare, il pleure, vous vous souvenez? Il a aussi connu l'angoisse avant d'entrer dans la passion. Vous savez, au point de dire à Dieu, là, à son Père, « Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi. » Et enfin, Jésus est mort cloué sur une croix dans une effroyable solitude. Après avoir enduré d'épouvantables souffrances dont je vous ai déjà parlé un vendredi saint dernier, les souffrances physiques, les souffrances morales, il se demandait si son Père était toujours à ses côtés. Puis il récitait un psaume, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 21. Or, on nous parle souvent d'une souffrance rédemptrice. Qu'est-ce que ça veut dire, une souffrance rédemptrice? Le mot « rédemption » signifie « action de racheter ». Bon, j'explique. À l'origine, ça désigne ça un geste de solidarité en usage dans les sociétés patriarcales qu'on retrouve dans la Bible, au temps biblique. Lorsque par imprudence ou par malchance, écoutez bien, là, un homme avait perdu ses biens. Disons, il était allé au casino, puis il a tout perdu. Bon. Un rédempteur pouvait se présenter et décider de racheter les biens du malheureux afin de les lui rendre. Quelle générosité, hein? Et celui qui prenait l'initiative de ce geste le faisait comment? Gratuitement. Gratuitement. Sans souci de réciprocité, là. Puis celui qui recouvrait ainsi ses biens perdus n'avait finalement aucun mérite dans cet heureux dénouement. L'idée, donc, de rédemption serait liée, à l'origine, à l'idée de rachat qu'on retrouve là. Ainsi, par amour, Dieu a-t-il, il l'a fait lui-même, il a racheté son peuple quand il était esclave en Égypte. Hein? Il mettait fin à son oppression, puis conduisait son peuple vers la liberté. Sans autre raison que son amour, c'est tout. Son amour, Dieu aimait son peuple. Par fidélité à sa promesse aussi, par fidélité à l'alliance qu'il avait passée avec ce peuple. Et ce thème de l'alliance, une alliance comme un mariage, si vous voulez, et de la libération, revient tout au long de la Bible. C'est lui qui a amené à appliquer à Dieu le mot « rédempteur ». Un mot qui, au départ, évoquait donc l'amour gratuit de Dieu. C'est ça que ça veut dire, rédempteur. L'amour gratuit de Dieu. Sa fidélité à toute épreuve. Son désir de délivrer l'homme de la souffrance et de l'esclavage. Et cette alliance a été renouvelée en Jésus-Christ. Mais la passion et la mort de Jésus, écoutez bien, ne sont pas une nécessité venant de Dieu. Un sacrifice nécessaire, là, pour assouvir sa justice. Il est enragé, puis ça lui prend ça pour se calmer. Voyons. La passion et la mort de Jésus doivent être placés dans la logique et la continuité de sa vie telle que nous la racontent les évangiles. C'est très important. Et Jésus a mené une existence prophétique. Prophétique, c'est-à-dire qu'il a, comme on dit souvent en langage ordinaire, il a trop parlé. Mais c'est son amour qui l'a mené à trop parler, comme on dit en langage ordinaire. S'il a été condamné à mort et exécuté, c'est parce que sa vie, son message, son enseignement, ses initiatives l'ont mis en opposition avec le pouvoir établi à cette époque en Palestine. Le pouvoir politique, là, des Romains, comme le pouvoir religieux des Juifs. Il était juif. Telle est la raison essentielle pour laquelle ses ennemis, qui détenaient ses pouvoirs, ont décidé de le supprimer. C'est pas tous les Juifs, Et pas nécessairement tous les Romains non plus. Faut pas accuser tout le monde. Faut accuser personne, de toute façon. Jésus n'est donc pas mort pour satisfaire au désir d'un Dieu vengeur. Non, pas du tout. Mais il est mort pour venir en aide aux hommes. Il les aidait à se libérer de toutes leurs entraves. Et cette mission, il l'accomplit jusqu'au bout, dans une fidélité totale à son Père. Mais en constante solidarité avec les hommes, sa vie l'amenait à la croix, quoi. C'est clair. Par cette fidélité puis cette solidarité qu'ils l'ont conduit jusqu'à la mort de la croix, il nous trace la route. Jésus a renouvelé l'alliance que Dieu avait passée avec le peuple hébreu. Il a ouvert définitivement à tous les hommes, à nous, les goyes, comme on dit, la possibilité d'être sauvés. Il s'agit d'un mystère d'amour et non d'une dette à payer. Je répète, il s'agit d'un mystère d'amour et non d'une dette à payer. La croix, c'est l'amour. Par amour, un homme, qui était également le Fils de Dieu, évidemment, Jésus, n'a pas hésité à poursuivre jusqu'à la mort la mission de libération des hommes que son Père lui avait confiée. Et nous devons faire comme lui. Si nous voulons être heureux et être des ressuscités intérieurement. Convaincus. Pardon. Jésus a connu le mal et la souffrance, mais il n'en a donné aucune explication. Très important ce que je veux dire ici. Il a seulement manifesté sa volonté de les combattre, toujours et partout et avec acharnement. C'est mal Selneusch, N-E-U-S-C-H, très beau livre sur le mal. Le Christ dénonce le mal, se révolte contre lui, il n'en clarifie pas l'origine, mais il en indique l'issue, une issue qui ne va pas sans combat, à l'excès du mal qui envahit le monde et menace de submerger l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il répond. Il répond en révélant un Dieu qui, par un excès dans l'amour, est engagé contre le mal. C'est beau, le christianisme, que c'est beau. Jésus a donné sa vie par amour. En lui, Dieu s'est fait solidaire de l'homme souffrant, et désormais, il est toujours à nos côtés. Oui, il est à vos côtés, il est à mes côtés, lorsque nous souffrons et lorsque nous luttons contre le mal. C'est saint Paul qui dit « Nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Folie. Belle et douce folie. Cette folie de la croix est la réponse des chrétiens à la folie du mal et de la souffrance. Et cette croix n'est pas un signe de résignation, non. Encore moins de défaitisme. Écoutez bien, c'est au contraire le signe, la croix, de la lutte ardente et incessante contre tous les maux et toutes les souffrances. Aucune religion n'est aussi belle que la nôtre. Merci, mon Dieu, de nous avoir donné la foi. Car la croix du Christ est une étape avant la résurrection et le bonheur infini que Dieu souhaite pour tous les hommes. Pour le croyant, c'est un appel à lutter comme Jésus, de toutes ses forces contre le mal et la souffrance en lui et autour de lui. Dieu ne nie pas le mal. Il s'en charge librement. Il s'en rend solidaire dans le Christ pour l'abolir. Nous sommes alors invités à participer à la suite du Christ et avec lui, au propre combat de Dieu contre le mal. Écoutez bien ce que dit Marguerite Yourcenar dans ce sens-là. Elle parle de la faiblesse de Dieu. Marguerite Yourcenar, dans l'œuvre au noir parue chez Gallimard, elle dit « Nous doutons, nous avons douté. Pendant combien de nuits ai-je repoussé l'idée que Dieu n'est au-dessus de nous qu'un tyran et qu'un monarque incapable et que l'athée qui nie est le seul homme qui ne blasphème pas. Puis, une lueur est venue. La maladie est une ouverture. Si nous nous trompions en postulant sa toute-puissance, en voyant dans nos mots l'effet de sa volonté, hein, peut-être nous nous trompions, nous. Si c'était à nous d'obtenir que son règne arrive, ah, j'ai dit naguère que Dieu se délègue. Je vais plus loin. » Et c'est toujours Marguerite Yourcenar qui parle. « Peut-être n'est-il dans nos mains qu'une petite flamme qui dépend de nous, d'allumer, d'alimenter et de ne pas laisser éteindre. Combien de malheureux qu'indigne la notion de son omnipotence accourraient du fond de leur détresse si on leur demandait de venir en aide à la faiblesse de Dieu. » Oui, sur cette terre où il a marché comme nous l'avons vu. Comment l'avons-nous vu? Si ce n'est comme un innocent sur la paille, tout pareil au nourrisson, hein? Comme un vagabond n'ayant pas une pierre où reposer la tête, comme un supplicié pendu à un carrefour, et se demandant lui aussi pourquoi Dieu l'a abandonné. Ah oui, chacun de nous est bien faible, mais c'est une consolation de penser qu'il est plus impuissant et plus découragé encore, et que c'est à nous de l'engendrer et de le sauver dans les créatures. Le chrétien est convaincu que l'homme est fait pour le bonheur, non pour le malheur. Oui, le chrétien, face à la souffrance, s'efforce d'imiter Jésus, puis de lutter de toutes ses forces contre le mal en lui, puis autour de lui. On voit les médecins chrétiens, les sœurs hospitalières, et tout ce dévouement dans l'Église qui est immense et dont on ne parle pas assez. Seule la manière de vivre une situation de souffrance en union avec le Christ mort et ressuscité peut être un mystérieux chemin de purification puis de progrès spirituel. Mais attention, attention à ne pas confondre la souffrance, toujours à combattre absolument, puis la manière de vivre ces souffrances, qui peut ou grandir ou détruire davantage la personne qui souffre. N'oubliez pas les paroles de Marie-Madeleine Davy que je vous ai lues au tout début de l'émission. Parce que le mal n'a aucun sens. Quant à la souffrance, elle n'a aucune valeur en elle-même. La douleur physique peut nous prévenir qu'une maladie se prépare. En ce sens, elle est utile. On va voir son médecin, on prend des médicaments, on fait attention à sa santé. Mais ce n'est pas toujours le cas. L'homme est un apprenti, puis la douleur est son maître. Et l'homme ne sait rien s'il n'a d'abord souffert. Les chants désespérés sont les chants les plus beaux, dit-on. J'en connais plus d'un qui sont de purs sanglots. Mais cela est loin d'être évident, car la plupart du temps, le prix à payer est excessif et les ravages de toutes sortes sont sans proportion avec les conséquences heureuses. En tout cas, les conséquences heureuses de la souffrance, lorsqu'elles existent, ne viennent pas de la souffrance elle-même, mais de la manière dont elle est vécue, surmontée et combattue. C'est pourquoi les malades ont tant besoin de nous. On ne doit pas rechercher la souffrance. Le malheur, quel qu'il soit, écrase plus souvent l'homme qu'il ne l'aide à progresser et à s'épanouir. Pour une personne sortant grandie de l'épreuve, la plupart des autres sont définitivement anéantis. C'est terrible, la souffrance. Aussi, c'est bien clair qu'on ne doit rechercher ou désirer la souffrance en quoi que ce soit. Ne recherchons pas la souffrance. La douleur ne peut jamais être une chose que l'on convoite. Qui dit ça? Georges Duhamel. C'est, ce doit être, seulement une chose qu'on accepte, comme certaines dignités terribles, comme certains honneurs accablants. On la reçoit, on ne la recherche pas. Et dans Saint Jean, on dit bien, Jésus a cherché à lui échapper. Jésus préférait ne pas parcourir la Judée où on cherchait à le faire périr, c'est écrit. Et la souffrance, indirectement, peut être l'occasion de fécondité. Il arrive que le malheur, dont on est la victime involontaire, là, ça peut être l'occasion d'une maturation, d'un approfondissement spirituel. C'est possible qu'elle mette sur le chemin de l'amour et que l'épreuve assumée devienne l'occasion d'un enrichissement incontestable. Et ça arrive souvent, ça. Je suis très impressionné, écrit le père Verspieren. Vous savez, des gens qui approchent de la mort. Il dit que quand ils sortent de là, c'est comme si le passage par la souffrance leur avait été nécessaire. Et il écrit ça dans Les croyants face à la souffrance. Mais encore faut-il souligner que la souffrance n'est jamais la cause, mais seulement l'occasion de cet approfondissement, de cet enrichissement. Tout dépend de la manière dont elle est accueillie. La souffrance vécue, je le répète, en union avec le Christ ressuscité, acquiert une valeur qui en fait une source de vie et non pas de mort. C'est d'ailleurs ainsi que les saints l'ont comprise et que saint Paul nous invite lui-même à l'assumer. La souffrance accueillie, oui, tout en étant combattue pour elle-même, là, ça modèle le chrétien sur le Christ, qui s'est fait solidaire de ceux qui souffrent. C'est ce que nous dit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3. Mais c'est pour que nous soyons glorifiés avec lui, c'est ce qu'il précise dans la lettre aux Romains, chapitre 8. Jésus n'a jamais recherché la souffrance pour elle-même. Sa résurrection, d'ailleurs, signifie au contraire le triomphe de la vie sur la mort. C'est ça le sens de la résurrection. C'est le triomphe du bien sur le mal. C'est le triomphe du bonheur sur la souffrance et le malheur. C'est cette victoire ultime du Christ qui donne un sens à ses souffrances puis aux nôtres. Car l'homme créé par Dieu est fait pour le bonheur et non pour le malheur. Et s'il nous faut lutter toujours contre le mal, contre la souffrance, c'est parce que Dieu nous a fait pour le bonheur. Cette conviction de foi s'enracine dans les paroles mêmes de Jésus. « Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Je vous donne ma joie et ma joie, nul ne pourra vous la ravir. » Et sa joie, elle est dans la croix. Donc, je vous ai dit au début, on le voit dans le sourire de Mère Teresa. Elle ne traduit pas notre insatisfaction présente. Elle n'est pas une fuite dans un au-delà futur. Dieu veut notre joie, notre bonheur dès maintenant, et cela est en parfaite conformité avec nos souhaits et nos désirs les plus profonds, puis c'est d'ailleurs pour cette raison que, croyants ou incroyants, nous pouvons nous retrouver. Oui, nous donner la main pour combattre le mal et la souffrance qui font obstacle au bonheur. Nous le faisons au nom de l'homme et du bonheur auquel il aspire, et en tant que chrétiens, nous le faisons dans nos hôpitaux et partout, aussi au nom même de notre foi et de notre espérance et à l'exemple de Jésus-Christ. Et malgré les difficultés terribles, parfois apparemment insurmontables, qui s'accumulent sans cesse devant lui, mais ce chemin vers le bonheur et la vie apparaît aux croyants comme étant le seul possible. Sa certitude, son espérance, ne lui paraissent pas illusoires. Non, c'est pas une illusion. Dans la mesure où nous croyons vraiment que Dieu, et c'est tout le sens de la croix du Christ et de sa résurrection, dans la mesure où nous croyons que Dieu s'est radicalement engagé à nos côtés, dans cette lutte contre le mal, la souffrance et le malheur, et dans cette lutte pour le bonheur, il est engagé. Oui, c'est lui qui fait advenir le royaume. C'est l'Esprit Saint. Oh Seigneur, que ton visage s'éclaire en faveur de tes fidèles. Sauve-nous dans ta bonté et ne déçois pas notre prière. C'est l'antienne de la communion, si vous recevez l'Eucharistie aujourd'hui. J'espère que vous allez à l'Eucharistie. Si vous désirez une cassette audio de cette émission, vous téléphonez à Marc-Alexandre à 374-3785, comme pour toutes les autres émissions, les 866 émissions. 374-3785, même à minuit ce soir, et durant tout l'été, je vous le rappelle, il y a des émissions le soir à 10h, des reprises. Avant de terminer, je vous rappelle que dans 2 semaines exactement, vendredi le 11 juin, je serai au Centre Unitas à 5h30 de l'après-midi, 17h30. Il y aura un souper végétarien et ensuite une conférence sur Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, sa vie, sa spiritualité, son influence. C'est une façon de commencer le week-end. Tout ça se termine à 21h dans la paix, la méditation et un climat vraiment de spiritualité profonde. Au Centre Unitas, c'est pas moi qui le fais, c'est les gens du Centre Unitas qui font régner ce climat admirable. 1475 West Avenue des Pins, téléphone 849-2728. 849-2728. Veuillez réserver à l'avance, au moins 2 jours à l'avance. 849-2728, c'est le vendredi 11 juin à 5h30. Je serai à l'église Saint-Nazaire dimanche matin dans 2 jours pour la messe à 11h et une adoration pour les vocations sacerdotales. Dimanche, l'église Saint-Nazaire à Ville-la-Salle.